Bonsoir Patrice.
Bonsoir David, bonsoir à tous. La campagne électorale pour la présidentielle bat son plein. La républicaine Valérie Pécresse était à Mouilleron-Saint-Germain en Vendée hier, à quelques kilomètres des Deux-Sèvres. Emmanuel Charest, conseiller régional, élu référent pour le Nord de Sèvres à Montcoutan cette fin de semaine. Ce dernier a visité plusieurs entreprises, l'occasion de prendre le pouls de la situation économique locale. À Montcoutanté dans The Voice, Thomas Dubin sera-t-il l'une des révélations de l'édition 2022 de l'émission. Rendez-vous à partir de demain soir sur TF1. Et puis dans l'actualité sportive, de l'athlétisme avec les demi-finales du championnat de France de cross-country ce week-end à Bressuire, alors que les Chamois tenteront eux de retrouver une dynamique avec la réception d'Auxerre demain soir, à suivre bien entendu en direct ici même.
La météo avec un ciel clément demain, samedi, pas dimanche, toujours autant de vent ce week-end. Valérie Pécresse aux portes des Deux-Sèvres hier.
La candidate à la présidentielle s'est en effet arrêtée à seulement quelques kilomètres de notre département hier, puisqu'elle a fait escale à Mouilleron-Saint-Germain, près de la Châtaigneraie. Valérie Pécresse était notamment entourée du sénateur montcoutantais Philippe Mouiller, l'un de ses fidèles soutiens. Cette commune vendéenne de Mouilleron-Saint-Germain a la particularité d'avoir vu naître deux figures historiques, saluées par la candidate des Républicains sous l'œil des photographes.
Rendre hommage à deux grands républicains, deux pères de la victoire, Georges Clémenceau et le maréchal Delattre. Ce village de Vendée qui les a vus naître tous les deux, c'est le village de l'unité nationale. C'est le village qui rassemble les Frances, qui rassemble les croyances, qui rassemble à la fois le laïcard Clémenceau, le Dreyfusard Clémenceau et le catholique maréchal Delattre, mais qui rassemble surtout des très fortes personnalités qui ont tout donné à la France, qui ont tout donné à la France et qui l'ont mené à la victoire, que ce soit le tigre Clémenceau à la victoire pendant la Première Guerre mondiale ou que ce soit le maréchal Delattre qui a mené la France dans l'offensive Rhin-et-Danube et qui a signé l'armistice avec l'Allemagne. Donc des grands combattants pour la France qui sont tous les deux nés dans ce petit village.
Valérie Pécressière à Mouilleron-Saint-Germain en Vendée, à quelques kilomètres donc des frontières de Sévrienne. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait également rendu hommage à ces deux personnages historiques lors d'un déplacement dans cette commune vendéenne en 2018.
La région Nouvelle-Aquitaine, réunie en commission permanente hier, a voté plusieurs subventions en faveur d'entreprises de Sévrienne.
100 000 euros à la société Big de Niort pour soutenir son innovation numérique sur le marché de la cybersécurité. 60 000 euros à l'entreprise cerisienne Wesco pour accompagner son projet de modernisation et de transformation numérique. 29 000 euros à l'industrie Tube Service à la Chapelle Saint-Laurent pour soutenir le recrutement d'un responsable qualité et déployer une stratégie globale de développement. 27 000 euros à la marbrerie Geoffroy de Lezay pour l'investissement matériel et une baisse de la pénibilité. Enfin, 20 000 euros à Filaire, à la Mode Saint-Héré pour une aide à l'internationalisation. C'est dans ce contexte qu'à l'invitation du maire de Montcoutant-sur-Sèvre, Emmanuel Charest, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, élu référent en charge de l'aménagement du territoire pour les secteurs du Bocage, du Toircé et du Loudunais, lui-même Toircé, a découvert aujourd'hui plusieurs entreprises de Montcoutant. Conny, spécialisée dans la menuiserie bois sur mesure, JC Confection, qui travaille pour de grandes marques de prêt-à-porter, MGM, société d'ingénierie, de maintenance industrielle et robotique, les meubles Souris et Lazeris, spécialiste dans la découpe laser. L'occasion de partager avec ces chefs d'entreprise sur leur quotidien, qui se résume en premier lieu sur la difficulté de recrutement pour leur développement. Emmanuel Charest.
Certaines entreprises sont quand même un peu dans le dur au niveau du recrutement. Et si on ne fait rien, j'ai des inquiétudes sur la pérennité de certaines entreprises du territoire qui risquent d'aller voir ailleurs pour trouver de la main-d'œuvre.
On peut se réjouir d'avoir un taux de chômage légèrement en dessous de 5%, mais ça double tranchant.
Absolument, absolument. Aujourd'hui, certaines entreprises sont bloquées faute de main-d'œuvre. Effectivement, on est passé d'une situation où on avait un chômage élevé à là, une situation de plein emploi.
Ce territoire, le nord de Sèvres, justement, il est très riche en tissu industriel.
Oui. C'est un territoire qui a gardé son industrie. Donc de nombreux territoires en France voyaient leur industrie partir. Le Nord de Sèvres a eu cette chance d'avoir une génération, je pense aussi, de chefs d'entreprise qui ont cru à l'industrie à un moment où tout le monde ne pariait que sur les services. Et aujourd'hui, ça paye.
Les chefs d'entreprise qui appliquent, entre guillemets malheureusement, l'adage pour vivre heureux, vivant caché.
Alors, peut-être. peut-être que le de Sévrien est peut-être cachotier, je ne sais pas, mais on a un territoire qui mérite d'être connu en tous les cas.
Le Toircé, Emmanuel Charré, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, c'était ce matin à Montcoutant-sur-Sèvre lors d'une visite de plusieurs entreprises du territoire.
Thomas Dubin sera-t-il l'une des révélations de l'édition 2022 de l'émission The Voice ?
Vu d'ici, on ne peut que l'espérer, puisque le jeune homme originaire de Saint-Thomas-le-Clou vit à Montcoutant-sur-Sèvre. Il a travaillé dans la restauration avant de changer de voix fin 2018 pour pouvoir chanter dans l'orchestre plein feu le week-end. À 25 ans, il espère accomplir son rêve et The Voice peut être un formidable tremplin. Thomas Dubin.
J'ai toujours chanté depuis tout petit, j'ai toujours voulu aussi vivre de la musique, c'est juste que j'ai eu des parents assez terre à terre qui souhaitaient que j'aie un métier entre mes mains, donc je me suis penché sur la restauration pendant pas mal d'années, mais sinon ouais, j'ai toujours fait de la musique à côté de ça depuis tout petit. J'avais déjà auditionné en 2018 de mon plein gré, et la production m'a rappelé cette année pour me dire qu'ils souhaitaient me revoir. Et en vue du contexte, on ne pouvait plus faire nos concerts. Donc j'ai dû reprendre un travail quelques temps. Et au final, quand j'ai regardé autour de moi pendant que j'étais à ce travail-là, qui m'ont téléphoné, je me suis dit oui, j'y vais, bah, c'est le moment. Alors en 2018, c'était vraiment un entrain. C'était avec une amie et ma coach. On avait dit on se lance, on envoie une vidéo et on verra. J'avais été surpris et très heureux. Et du coup, j'étais allé une étape supérieure. Et là, cette étape, ça n'avait pas abouti. Et là, en l'occurrence, cette année, ils m'ont appelé pour aller directement sur Paris dans les castings. Et là, oui, effectivement, j'étais super heureux et je me suis dit que c'était le moment. Ah oui, je me sentais beaucoup plus prêt qu'il y a 4 ans, parce que il y a 4 ans, je n'avais aucune expérience scénique concrète. Alors que là, depuis 4 ans, je tourne avec l'orchestre très régulièrement.
Sur YouTube, c'est quand même assez impressionnant, vous en conviendrez. Pour l'intérêt de l'émission, impossible de savoir si Thomas a franchi le cap des auditions à l'aveugle, ni de savoir sur quel morceau il a tenté de convaincre les coachs qui constituent leur équipe sur la base de ses auditions. En tout cas, Thomas dispose, et c'est bien là l'essentiel, d'une voix exceptionnelle. Thomas Dubin à suivre dans The Voice à partir de demain, samedi, sur TF1.
C'est pas parce qu'il est de chez nous, mais moi je mets un petit billet sur lui quand même.
Exactement.
Événement ce week-end à Brest, Patrice. Ouais, les deux, avec les demi-finales des championnats de France de cross.
Les meilleurs athlètes spécialisés dans le cross-country seront présents pour tenter de décrocher une place en finale des championnats de France. Le SBAC, club support et organisateur de cette compétition, a investi le campus des Sicaudières pour accueillir 1200 athlètes. Les courses vont s'enchaîner dimanche de 10 à 16 heures. Pascal Brosseau, le président du SBAC, joint par Fabien Gazou.
La première course réservée au Master 3 et plus partira à 10h. Et la dernière, le cross long élite masculin, à 16h.
Pour les spectateurs, le cross country, c'est vraiment spectaculaire.
Oui, puis avec, il faut aussi se persuader qu'il y a quelques-uns des meilleurs Français qui sont là, dans certaines catégories, avec des internationaux. Donc, ça vaut vraiment le coup d'œil sur des parcours qui vont être boueux, ça, c'est une certitude. Et en plus, une portion de la grande boucle qui est très très accidentée avec une succession de descentes et de montées, et donc ce sera très très spectaculaire à ce niveau-là. Et puis on peut aussi se féliciter de, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que l'organisation nous a été confiée sur le site des Sicaudières, qu'il y aura une très très belle visibilité concernant les courses. On pourra voir une très grande majorité des boucles et sans se déplacer forcément sur le terrain.
Espérer un temps, la participation du Goé ne semble plus à l'ordre du jour, même si le Bocquin, le Bressuré, devrait être présent physiquement dimanche. Les Chamois, eux, n'ont pas vraiment le temps de réellement souffler, stopper dans leur belle dynamique. Les Deux-Sévriens viennent de subir deux revers consécutifs. Il y a une semaine à Amiens, sous le score de 3-1, puis à Grenoble, pourtant mal en point en championnat de Ligue 2, avec une défaite 1-0. Après ces deux fausses notes, pas d'autre choix que de retrouver le chemin de la victoire face face à une équipe d'Auxerre, cinquième au classement. Match demain soir à René Gaillard, alors que les Chamois occupent eux à ce jour le septième rang. Sébastien Lossabre, le coach niortais.
Le constat, il est simple. C'est après cinq matchs de la phase retour, on fait deux victoires, deux défaites, un nul. Donc, pour une équipe de notre calibre, je pense que c'est pas si mal que ça au niveau comptable pour engager une phase retour. C'est très bien qu'on va pas gagner tous les matchs. Ce que je disais simplement, ce qui m'avait gêné sur le match de Grenoble, c'est pas forcément de perdre. C'est que j'ai trouvé qu'on avait lâché un peu de cohésion, c'était un peu individuel. Il y avait, je pense qu'on aurait dû faire une meilleure prestation. C'est ce que je vais demander aux garçons, c'est de se livrer, d'être à l'image de ce qu'on a fait contre Toulouse ici, voilà, d'avoir un bloc solide ensemble, et puis de ne pas perdre les valeurs de Niort. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on soit solidaires, soudés, qu'on donne tout, et notamment qu'on s'attende à courir beaucoup contre cette belle équipe d'Auxerre.
Les propos de Sébastien Lossabre, l'entraîneur des Chamois Niortais, au micro colline d'Alexis Denis. Niort-Auxerre, c'est donc demain soir à 19h. Match à suivre en direct sur colline. Les commentaires seront assurés par Vincent Lory et François Larue. Toujours dans l'actualité footballistique pour le compte du championnat de national cette fois. Cholet, 9e, joue ce soir à Concarneau, 2e du championnat. Suite à un accident de poids lourd ce matin, un peu après 6h sur la départementale 744, ce matin donc, la route a été fermée une bonne partie de la matinée entre la Forêt-sur-Sèvre et Cerisay pour permettre les opérations de relevage du camion qui s'est renversé sur le côté dans le sens Montcoutant-Cerisay, juste après le rond-point. Le chauffeur, un Niortais d'une vingtaine d'années qui convoyait des produits alimentaires, n'a pas été blessé, fort heureusement. La circulation a été rouverte en fin de matinée aujourd'hui.